revue de presse de Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Je suis, au moment de vous écrire cela, sain de corps et d'esprit. Rien n'a altéré mon raisonnement. Il s'agit là des premières phrases d'un mail reçu dans la nuit du 5 au 6 février par deux journalistes de Libération. Le mail vient d'un ancien militant parisien de l'UNEF, devenu enseignant, auquel Laure Breton et Ismaël Alissat avaient envoyé la veille des extraits de leur enquête avec les témoignages de plusieurs jeunes femmes, elles-mêmes anciennes militantes de l'UNEF, l'accusant d'agression sexuelle. Au moins une demi-douzaine de faits pénalement répréhensibles. Les journalistes de Libé souhaitaient connaître son point de vue. Qu'avait-il à répondre à ces accusations ? Je vous ai déjà lu le début de sa réponse, le message est très long. Le trentenaire y évoque les violences de son père condamné pour le viol de deux de ses sœurs et d'une cousine mineure. Il évoque sa famille qui explose en plein vol et le syndicat étudiant qui devient un refuge. Quant aux accusations, les faits sont exacts, écrit-il. Et encore, vous ne vous appuyez que sur les témoignages que vous avez collectés. Il ne conteste rien et laisse donc entendre que le nombre de ses victimes irait bien au-delà d'une demi-douzaine. Et l'ancien militant conclut, trois phrases, comme un couperet. « Cette situation me hante depuis trop longtemps. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Personne d'autre que moi n'en est responsable. » Dès la lecture du mail, mes confrères de Libération préviennent les secours, la police, les pompiers. Le jeune homme reste introuvable pendant une journée, sa famille le cherche également. Et décision est prise alors de suspendre la publication de l'enquête. Puis le journal apprend que l'ancien militant devenu enseignant a été retrouvé. Il est à l'hôpital et il est entouré. Le quotidien choisit de ne pas donner son nom, mais ce matin... On peut donc lire « L'enquête menée durant trois mois par Laure Breton et Ismaël Alissat, harcèlement, agression et viol, sont visés plusieurs dirigeants de l'organisation étudiante. »
Les témoignages qui accablent l'UNEF, c'est le titre à la une.
Des témoignages qui font suite à la tribune publiée en novembre dans Le Monde. Conséquence de l'affaire Weinstein, 80 jeunes femmes dénonçaient les violences sexistes et sexuelles au sein de l'Union nationale des étudiants de France. Et voilà maintenant les récits de 16 anciennes militantes. Elles ont accepté de raconter témoignages anonymes. Dans la plupart des cas, la peur des représailles. Mais elles donnent l'identité des garçons qu'elles accusent, un certain Grégoire T, mais aussi Jean-Baptiste Prévost, qui dirige déjà l'UNEF de 2007 à 2011, elle raconte les traquenards dans lesquels elles sont tombées, demande de fellation, puis viol, sous une tente, au camping de la fête de l'humanité, demande de fellation, ou sinon je te prends par derrière. À l'issue d'une fête de l'UNEF à Paris, elle raconte les week-ends régionaux de formation, les jeunes dirigeants qui repèrent leur proie, notent leur numéro, puis vont sonner chez elles au milieu de la nuit pour dire qu'ils ne savent pas où aller dormir, et parfois certaines cèdent à leurs avances sans violence, simplement parce que ce sont eux qui ont le pouvoir, ce sont eux les chefs. Et comme le reconnaît une ancienne de la direction du syndicat, à l'époque on était une mini-autocratie. Il y avait dans l'ordre Marx, Lénine, Engels et le président de l'UNEF. Président tout-puissant, des garçons tout-puissants, du sexisme à tous les étages et les filles qui encaissent. Mais aujourd'hui, certaines ont donc accepté de parler après des années à se taire. Ceux qu'elles accusent démentent, parlent de relations consenties, excepté l'ancien militant devenu enseignant, un homme qui reconnaît les faits. Et ses aveux sont importants, un homme face à sa conscience.
Inter 8h37 ce matin, Frédéric, les journaux évoquent aussi d'autres femmes qui ont décidé de parler.
Elles ont parlé, mais elles le paient. Une affaire jugée au prud'homme, c'est à lire dans Mini Libre, dans un club de football. Une jeune fille qui raconte qu'elle a été harcelée. Bizarrement, elle est licenciée. Autre affaire, celle-ci non jugée, à lire sur le site Nouvelle News. L'histoire d'Astrid de Villene, journaliste sur la chaîne parlementaire. Elle avait dénoncé l'agression sexuelle d'un collègue. Et celui-ci, après avoir été mis à pied, est revenu à l'antenne dès le mois de janvier. Elle ne supporte pas l'idée d'avoir à le rencontrer. Elle a démissionné et le site s'en émeut. C'est balance ton porc et tire-toi.
On parle aussi d'éducation dans les journaux ce matin.
Avec le courrier Picard qui s'inquiète. Nuit debout dans les écoles. Des écoles occupées la nuit pour protester contre les projets de fermeture de classe. Et à ce sujet, il faut lire le papier de Louise Touré sur Slate. L'école maternelle va-t-elle disparaître? Pourquoi lire ce papier? Parce qu'il apporte une analyse intéressante sur les fermetures de classe. Oui, en ce moment en France, des classes sont en train de fermer. Car les postes sont répartis en fonction des besoins. C'est ce qu'on appelle la DGF, la dotation horaire globale. L'heure est donc au calcul et aux décisions avec des fermetures quand il n'y a pas assez d'élèves ou pas assez de professeurs. Et c'est là que le bât blesse. Pour donner des postes au nouveau dispositif des classes à 12 élèves en CP et en CE1 dans les écoles situées en réseau d'éducation prioritaire, on enlève des profs dans d'autres établissements, et notamment dans les maternelles. Aujourd'hui, les classes de toutes petites sections pourraient même tout bonnement disparaître. Éducation toujours, c'est à lire dans La Croix, quand Internet empoisonne le climat scolaire. Insultes sur la toile, diffusion d'images ou de vidéos désobligeantes, le dernier baromètre du climat scolaire, réalisé par la Fédération des autonomes de solidarité et dont La Croix dévoile les résultats, montre une hausse de 19% des préjudices numériques touchant les personnels de l'éducation, des insultes donc, des vidéos parfois de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. De son côté, Le Parisien propose tout un dossier ce matin pour éviter les conflits au moment de l'héritage. Mais oui, et vous lirez toutes les techniques pour réussir à contourner la loi et déshériter ses enfants. C'est absolument monstrueux.
Oui.
Enfin, à la une de l'Union, un titre horrible également, pour vivre heureux, fuyez la région. Les chiffres de l'espérance de vie sont tombés et décidément, il ne fait pas bon vivre dans la Marne, lit-on. Certains matins, l'actualité est vraiment désolante.
Frédéric Pommier, merci pour cette revue de presse.